Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Bienvenue à tous et à toutes dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Tribunal médiatique. La formule n'est pas neuve, mais on l'a beaucoup entendu ces derniers mois. Les journalistes sont régulièrement accusés de se transformer en procureur ou en juge. Et ce reproche est particulièrement récurrent quand la presse travaille en amont de la justice, voire quand elle déclenche des enquêtes judiciaires. Alors je vous propose que nous entrions dans le détail ce matin pour disséquer cette accusation dans un contexte général de défiance à l'égard des médias. J'ai invité deux journalistes qui ont enquêté sur deux affaires marquantes. Les accusation d'agression sexuelle portée par Adèle Haenel contre un cinéaste. Et puis dans un autre registre, l'affaire des assistants parlementaires du Modem, qui valut à François Bayrou son poste de ministre et une mise en examen. La présomption d'innocence a-t-elle été respectée? Que dire du principe du contradictoire, si important dans les prétoires? Et ensuite, une fois que la justice s'en mêle, quelle relation entretient-elle avec le média qui a révélé l'affaire? Bref, comment ça marche quand la justice emboîte le pas à des journalistes?
L'Instant M. Dorothée Barba, sur France Inter.
Je crois qu'il est dans l'ordre des choses naturelles que les journalistes puissent apporter des informations, éclairer l'actualité, éclairer les faits. Après, ça n'empêche pas que je crois aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait de tribunal médiatique. Et il est tout aussi important que des gens qui sont mis en accusation, sur qui pèsent des soupçons, puissent se défendre.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, s'exprimait ce jour-là sur l'affaire de Rugy. Bonjour Marine Turki.
Bonjour.
Journaliste à Mediapart, c'est vous qui avez enquêté sur l'affaire Adèle Haenel. La comédienne accuse le cinéaste Christophe Ruggia d'agression sexuelle et de harcèlement lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans. Elle avait choisi au départ de ne pas porter plainte, mais l'a finalement fait après que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. On y reviendra bien sûr. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour.
Journaliste à Radio France, cellule investigation. Vous avez travaillé sur l'affaire Bayrou. Vous avez révélé que des personnes payés sur fonds publics comme assistants parlementaires travaillaient en fait pour le Modem et pour ses cadres dirigeants. C'est un reproche qui vous est fait régulièrement à tous les deux, je crois, hein, tribunal médiatique. Que pensez-vous de cette expression d'abord, Marine Turki?
Bah déjà, cette expression, elle met dans le même sac un tweet, un édito du journalisme d'opinion et du journalisme d'enquête, une enquête de 6 mois ou 1 an, par exemple. Donc ça me paraît pas du tout approprié. Mais surtout, ce que je remarque, c'est que ceux qui l'emploient, finalement, en général, c'est pour éviter de répondre au fond de l'enquête.
On s'en prend au messager.
On s'en prend au messager plutôt qu'au message et ça évite de répondre. Mais surtout, nous, on n'est pas policiers, on n'est pas magistrats, on produit des enquêtes journalistiques et on produit surtout des informations qui sont utiles au débat public, qui sont utiles aux citoyens, et puis surtout, qui aide aussi à la bonne marche de la justice. Cahuzac, Benalla, Baupin, l'affaire autour de l'histoire d'Adèle Haenel, tout ça, on a été en amont à Mediapart du travail de la justice. Moi, on défend le droit de savoir des citoyens sur tout ce qui est d'intérêt public et utile au débat public.
Amalgame entre le journalisme d'opinion et le journalisme d'investigation, c'est ce que recèle cette expression, selon vous aussi, Sylvain Tronchet?
Oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, cette expression, elle est utilisée bien souvent pour éviter d'avoir à répondre sur les faits, comme l'a dit Marine.
Mais est-ce que vous y percevez aussi un procès en légitimité? Qui êtes-vous pour vous attaquer à François Bayrou, en l'occurrence?
François Bayrou, par exemple, lorsqu'il démissionne, suite justement dans la foulée de nos révélations, il n'y a pas d'enquête judiciaire à ce moment-là. Il tient une conférence de presse, il y a 70 journalistes à peu près dans la salle. Et il y a une ambiance assez surréaliste parce que les 5 premières questions qui lui sont posées sont des questions purement politiques. Personne ne parle de l'affaire. Personne. Pas un journaliste ne vient lui poser une question sur l'affaire. Il y a un éléphant au milieu du couloir, là, et tout le monde feint de ne pas le voir. Donc au bout d'un moment, je me lève et je tente de poser la question. Et il me coupe, il me dit « Non, monsieur, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur. » Et aucun journaliste derrière, ce jour-là, ne va tenter de reposer la question. Il n'y a pas d'exercice du droit de suite en France. Et je pense qu'il y a un élément qui est très important finalement pour comprendre aussi pourquoi cette expression peut prospérer, c'est que le journalisme d'enquête en France, et je parle d'enquête d'initiative, donc qui sont des enquêtes qui,
en amont de la justice,
ou en tout cas qui vont explorer des champs, des affaires dont la justice ou la police ne s'est pas mêlée. Ce journalisme-là est encore un journalisme qui doit faire ses preuves dans l'univers du journalisme français.
Beaucoup de journaux, même si souvent ils s'en défendent, préfèrent attendre qu'il y ait une plainte, qu'il y ait une enquête judiciaire, que l'affaire existe finalement aux yeux de la justice pour en parler. Est-ce que vous comprenez cette ligne, Marine Turki?
Bah, en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qu'on fait à Mediapart. Nous, on mène nos propres enquêtes. Et s'agissant des violences sexuelles, par exemple, on retrace tout. Exemple avec Adèle Haenel. Qu'est-ce que je dis à Adèle Haenel quand elle me livre son témoignage au mois d'avril? Je lui dis, on ne peut pas se contenter de cette parole, il faut enquêter. Et donc je vais passer 7 mois à faire quoi? À vérifier les dates qu'elle me donne, les protagonistes, les lieux, à rencontrer les témoins des différentes décennies dans le monde du cinéma, dans son entourage, dans l'entourage de Christophe Ruggia, l'équipe du film de l'époque qui s'appelle Les Diables. Tout ce travail va prendre 7 mois, je vais trouver des documents parce que je défends dans ces affaires que ce ne sont pas forcément du parole contre parole. Et c'est comme ça que beaucoup de journalistes se débarrassent souvent du sujet en disant, on attend qu'il y ait une plainte parce que sinon c'est du parole contre parole et on n'a rien. Mais c'est pas vrai.
C'est aussi une façon de respecter les droits de la défense, de donner la parole à celui qui est mis en cause.
Alors,
de façon juste et équitable.
Moi, je défends justement cette phase du contradictoire qui n'est pas une phase gadget. La phase du contradictoire, c'est quand on va justement voir le mis en cause et qu'on lui donne tous les éléments pour pouvoir répondre. Qu'on dit voilà, nous on a ça, qu'est-ce que vous répondez là-dessus, etc. Christophe Ruggia, le réalisateur qui accuse Adèle Haenel aujourd'hui, n'a pas souhaité me rencontrer, il n'a pas donné suite à mes multiples demandes et c'est pas 24 heures avant un petit texto répondez. C'est pas comme ça que je fais. C'est-à-dire que ça a été 10 jours. D'essayer de le voir, de lui demander de me recevoir. Il était en province, je lui dis je peux me déplacer. Ensuite, je lui ai soumis 3 pages de questions parce qu'il ne voulait pas me rencontrer et qu'il est passé par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai transmis toutes ces questions. Ces questions, elles sont ouvertes. Ces questions, c'est vous avez posté par exemple une photo d'Adèle Haenel avec un cœur au mois de septembre sur Facebook, alors même que vous avez connaissance, d'après votre propre sœur, des accusations vous visant. Pourquoi? Quel est le sens de cette publication? Expliquez-nous. J'ai aussi tendu une perche à Christophe Ruggia. Je lui ai dit est-ce que vous avez peut-être pas eu conscience de certains gestes, certaines attitudes? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous ne referiez pas ou vous donnez un autre sens? J'ai tendu cette perche, il n'a pas voulu la prendre. On l'a aussi invité dans notre émission, il n'a pas souhaité venir. C'est un vrai travail, le contradictoire. Sans cette phase-là, on ne peut pas publier. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir avoir le contradictoire d'une personne qui est décédée au cours de l'enquête. On n'a pas publié malgré les nombreux témoignages qu'on avait.
C'est très important ce que dit Marine. C'est non, mais sur ce point-là, parce que ça, là aussi, il y a un manque de culture dans le journalisme français et de fait, donc, ensuite, dans la société française. Sur cette phase du contradictoire qui fait que bien souvent on part du principe que ça a été complètement évacué et qu'on a lynché les gens. C'est aussi un terme qu'on entend. Et aujourd'hui, justement, parce que cette phase du contradictoire, elle est extrêmement méthodique telle qu'elle est faite et qu'elle se termine bien souvent parce qu'on a face à nous un mur de gens qui ne souhaitent pas nous répondre, elle se termine par une immense lettre, un grand mail qui va faire 3 pages, 4 pages, 5 pages avec des questions numérotées, extrêmement factuelles, extrêmement précises, qui vont aussi permettre à la personne de comprendre quels sont les éléments dont nous disposons, ce que nous allons écrire, etc. Ces choses-là sont ressenties aujourd'hui, parfois, par les mises en cause comme une agression. Or, ça n'est ni plus ni moins, au contraire, que l'exercice plein et entier des droits de la défense appliqués au journalisme.
Je voudrais qu'on écoute à ce sujet l'une des avocates de Christophe Ruggia, Fanny Collin, sur France Inter en novembre dernier.
C'est la garantie pour chacune des parties de pouvoir être entendue sereinement dans un cadre judiciaire, en dehors du brouhaha médiatique et des tribunaux des réseaux sociaux qui ont, semble-t-il, déjà jugé coupable Christophe Ruggia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contexte actuel, Christophe Ruggia ne peut pas s'exprimer parce que sa voix est inaudible.
Voilà, l'avocate de Ruggia se félicite que le parquet de Paris ait ouvert une information judiciaire pour que son client puisse se défendre, c'est ce qu'elle dit. Finalement, la différence entre vous et un enquêteur de justice, Marine Turki, c'est que vous ne pouvez pas convoquer les personnes que vous voulez entendre.
Ce qui est intéressant, c'est surtout que souvent les mis en cause ne nous répondent pas ou de manière vraiment laconique, un démenti en une phrase. Mais par contre ensuite, ils organisent une contre-offensive et vont par exemple s'exprimer. C'est le cas de Roman Polanski récemment dans Paris Match, dans un long entretien où il manque quand même beaucoup de questions sur les faits qui les accusations qui le visent. Effectivement, nous on ne peut pas avoir toutes ces réponses. Mais c'est important que le mis en cause ait tous les éléments qu'on va lui reprocher dans l'article. Il ne découvre rien. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question qu'on lui envoie. C'est des éléments extrêmement précis auxquels il a les moyens de répondre.
Alors, je le disais, dans un cas comme dans l'autre, dans l'affaire Haenel comme dans l'affaire Bayrou, la justice s'est ensuite saisie de ces questions après les révélations des journalistes. Question toute bête, est-ce que vos enquêtes, vos travaux ont été versés au dossier, Sylvain Tronchet? Est-ce que, à votre connaissance, votre reportage, votre enquête figure dans le dossier des assistants parlementaires du MoDem?
On retrouve régulièrement, de toute façon, des articles de presse dans les dossiers d'instruction. C'est-à-dire que les policiers font un travail de veille également, qui fait qu'à un moment, effectivement, dans leur rapport, ils reprennent des éléments qui sont évoqués par la presse, pour les retravailler derrière, oui.
Avez-vous été auditionné, convoqué?
Non.
Et si vous l'aviez été, y seriez-vous allé ?
Si je suis convoqué, a priori, je réponds à une convocation. Je ne sais pas. De toute façon, rien qui pourrait mettre en cause mes sources.
Même question, Marine Turquie. Est-ce que vous avez été entendu par la justice dans cette affaire ?
Alors non, mais si c'était le cas, je répondrais à cette convocation et je livrerais les informations qui sont dans l'article, c'est-à-dire tous les éléments.
Donc vous diriez, lisez Mediapart.
Je donnerai tous les éléments, les vidéos, les lettres qui sont mentionnées dans l'article, tout ce qui est public.
La presse inverse la charge de la preuve. C'est ce qu'on entend souvent chez les juristes, mais pas seulement. Quand les accusations sont portées par la presse, c'est à l'accusé de prouver qu'il est innocent, Sylvain Tronchet.
Il n'y a pas d'accusation, encore une fois. Il y a un faisceau de faits, d'éléments que nous avançons. Justement, c'est là où le travail journalistique s'arrête. C'est que nous, derrière, on ne fait pas de qualification pénale. Donc il n'y a pas d'accusation. Nous amenons des éléments. Ces éléments sont factuels. Et il se trouve parfois que le faisceau de ces éléments factuels laisse supposer qu'il y a probablement une infraction pénale derrière. Mais à
et c'est
ce
le bruit médiatique derrière qui va transformer ces faits en accusation, Sylvain Tronchet.
Non, c'est pas le bruit médiatique, c'est la justice éventuellement qui va transformer ces faits en accusation. Chacun, encore une fois, chacun en tire les conclusions qu'il souhaite en tirer. Nous amenons des faits. Et nous demandons aux personnes qui sont mises en cause parfois dans nos enquêtes de répondre sur ces faits, avec la ferme intention d'ailleurs de publier leurs réponses.
C'est au lecteur de se faire une idée avec les éléments qu'on donne, et c'est pour ça qu'on fait ce travail, c'est utile au débat public. Nous, on met le maximum de documents possibles, dans la mesure de la protection des sources évidemment, dans nos articles, et au lecteur ensuite de juger. Mais on ne peut pas ensuite être rendu responsable de tous les tweets qui peuvent y avoir sur les affaires. Nous, nos enquêtes à Mediapart sont au cordeau, elles sont extrêmement respectueuses du contradictoire, et je rejoins Sylvain, nous ne donnons pas non plus à Mediapart la qualification pénale des faits. Moi, je ne dis pas dans mes articles sur Luc Besson ou autre, ça c'est du viol, du harcèlement sexuel ou que sais-je. Non, nous on décrit ce qu'il y a dans les témoignages et on donne la parole en face aux témoins, au contexte et encore une fois aux documents. Et j'insiste là-dessus parce que même dans les affaires de violence sexuelle, il y a des documents.
Écoutons François Bayrou il y a quelques semaines chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
Est-ce que des collaborateurs d'eurodéputés Modem ont été rémunérés par des fonds publics du Parlement européen alors qu'ils travaillaient en fait pour le parti ? C'est
non.
La question posée.
Non.
Vous dites non.
Et je n'en dirai pas plus.
Oui.
Parce que je répète une chose que je
ne suis pas juge d'instruction,
voilà.
Ni vous.
C'est mieux.
Mais je suis journaliste.
Je répète quelque chose que je vous ai, je crois, déjà dit.
Exactement.
Et que je vais répéter. Ça n'est pas parce qu'on vous accuse de quelque chose que c'est vrai.
Dans le cas de l'affaire des assistants parlementaires Modem, Sylvain Tronchet, c'est pas seulement votre enquête, il faut le préciser, qui a alerté la justice. L'information judiciaire a été ouverte quand un assistant parlementaire est venu spontanément parler à la justice. C'était concomitant à vos révélations au printemps 2017. Est-ce que vous diriez qu'il est plus facile pour une source de parler à un journaliste qu'à la police ?
Dans certains cas, probablement oui. Enfin, je l'ai vu dans certaines enquêtes, d'avoir des sources qui précisément venez nous voir parce qu'elle se demandait éventuellement d'abord si on allait les prendre au sérieux éventuellement et pas à tort. On a vu dans une autre enquête, je pense à celle qui concernait Luc Le Meunier, le maire du Havre, qui a dû démissionner suite à des faits qui s'apparentent à du harcèlement sexuel. Une des sources qu'on avait était quelqu'un qui avait vu la justice à un moment et qui s'était plutôt fait taper sur les doigts.
Et en désespoir de cause,
affaire.
Qui se tourne vers la presse.
Oui, je ne sais pas si c'est en désespoir de cause ou en tout cas qui s'est senti plus à l'aise probablement avec nous de pouvoir parler de cette affaire et qui, à un moment, a reçu probablement de notre part un niveau de considération et de prise en compte de ces éléments qui n'était pas celui qu'elle avait reçu auprès de la justice. Il est arrivé aussi, c'est le cas dans l'affaire Bayrou, que des gens viennent nous voir en nous disant « je veux vous apporter un témoignage ». Et puis, tant que vous y êtes, si vous pouvez passer mon nom aux enquêteurs, dites-leur que je suis prêt à témoigner. C'est, à mon avis, une démarche qui montre de façon indubitable que ce qui motive cette personne est l'aide à la manifestation de la vérité.
Et pas un agenda politique personnel, par exemple.
En l'occurrence, non, je ne le crois pas.
Marine Turquie, sur cette difficulté à parler à la police plutôt qu'à des journalistes, évidemment, lorsqu'il est question de viol ou d'agression sexuelle, on mesure l'ampleur de la difficulté.
Oui, mais il faut savoir que nous, quand on reçoit justement des femmes qui témoignent par exemple de violences sexuelles à Mediapart pour recueillir leurs témoignages, on leur dit aussi quelles vont être les conséquences d'un article. On n'essaie pas de leur faire croire que ça va être un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs, même le processus de l'enquête journalistique est très difficile pour elles aussi parce que on leur pose plein de questions. C'est pas très facile pour elles. On leur pose plein de questions, on revient vers elles, on dit là, vous nous avez donné telle date, est-ce que c'est pas plutôt telle date, est-ce qu'il n'y a pas une erreur, là-dessus vous avez envoyé tel SMS.
Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas plus facile chez vous
que je dis qu'en tout cas, on les informe que ce ne sera pas facile, mais je crois qu'il y a un temps pour l'écoute et un temps pour la vérification. Et peut-être que c'est ça le problème aussi devant la justice, c'est qu'il y a un manque de formation de certains policiers, pas tous, hein, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a encore des difficultés de la justice à traiter et juger ces affaires de violence sexuelle. Plus largement, il y a une défiance énorme aujourd'hui vis-à-vis de la justice. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, nous, journalistes, on doit en rendre compte de cet élément.
Et c'est bien cette perte de confiance. C'est bien cette défiance d'ailleurs qui a poussé Adèle Haenel au départ à ne pas porter plainte.
J'ai jamais vraiment envisagé la justice. Parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice. Mais il faut que la justice, elle parle de toute la société.
Et finalement, la justice, dans cette affaire, s'est saisie toute seule, Marine Turki. Aviez-vous intérêt, en quelque sorte, à ce qu'Adèle Haenel ne porte pas plainte contre Christophe Ruggia? Parce que tant qu'il n'y a pas de plainte, c'est une exclusivité Mediapart.
Bon, de toute façon, je crois qu'on avait là-dessus une longueur d'avance parce qu'on a travaillé pendant des mois et des mois, donc plainte ou pas plainte, moi ça ne changeait pas.
Vous lui avez conseillé de porter plainte, vous ?
Moi, j'ai pas de conseil à lui donner. Moi, je pose la question, est-ce que vous comptez ou pas saisir la justice ? Et est-ce que c'est une question qui vous a traversé au cours de ces dernières années ? Elle a fait la réponse qui est dans l'article en disant la justice nous ignore, ignorons la justice. Elle a expliqué pourquoi elle ne comptait pas porter plainte. Et puis ensuite, 3 jours après, assez rapidement, la justice ouvre une enquête et la sollicite pour être auditionnée, lui pose la question « Est-ce que vous allez porter plainte ?» Et là, elle dit « Je ne me dérobe pas à cette demande, la justice a fait un pas, je fais un pas, moi aussi, et ça, on en a rendu compte dans Mediapart. » Moi, j'ai pas de conseils à donner. Moi, j'ai une enquête à mener pendant des mois et encore une fois, il y a eu plus de 35 personnes de contactées dans cette enquête. Toutes témoignent à visage découvert et j'insiste parce que c'est rarement le cas pour montrer que non, ce ne sont pas des anonymes qui se vengent dans l'ombre et qui ont intérêt à faire sortir ça. La seule question qui vaille pour nous, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est confirmé ou pas ? Les faits.
Il faut remarquer peut-être une chose pour répondre à votre question. Il y a deux domaines aujourd'hui, et d'ailleurs cette émission en est l'expression, où précisément l'enquête journalistique devance parfois l'enquête judiciaire, où il y a beaucoup d'enquêtes d'initiative, etc. C'est le cas des violences faites aux femmes et le politico-financier. Peut-être qu'on peut remarquer que ce sont deux domaines dans lesquels parfois la justice a toujours du mal à se saisir de certains dossiers pour différentes raisons, très différentes d'ailleurs sur un domaine ou sur un autre. Par conséquent, le ou la journaliste est aussi le recours pour les victimes parfois dans ce genre d'affaires et sur ce genre de domaine.
Cette décision de ne pas porter plainte, elle a été largement commentée, hein, Marine Turki. On a beaucoup dit, voilà, Adèle Haenel, elle est célèbre, elle a accès aux médias. C'est pas le cas des autres victimes. Et ne pas porter plainte de sa part, c'est une façon de dire aux autres, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Et ça encourage le silence. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ce qu'elle a aussi dit, c'est qu'elle était tout à fait consciente de son statut social, de la puissance qui était la sienne, et qu'elle voulait aussi porter la parole des autres femmes et hommes victimes de violences sexuelles qui n'ont pas les moyens forcément d'être entendues par les médias. Donc je crois que son témoignage a quelque chose de très universel, mais elle incarne quelque chose que nous on voit dans tous nos articles sur les violences policières, les discriminations, les violences sexuelles. C'est cette perte de confiance en la justice, et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec ce positionnement, nous journalistes devons, je crois, en faire état.
Vous pensez que cette expression a de beaux jours devant elle, tribunal médiatique, Sylvain Tronchet ?
Tant que ça arrangera des gens pour éviter de répondre à nos questions, probablement oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Marine Turki, journaliste à Mediapart, Sylvain Tronchet de la cellule d'investigation de Radio France. Bonne journée.
Merci
à tous les deux. Merci. Grand bien vous fasse avec Ali Rebéi, ce sera juste après les infos.